Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur AMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Perico Légas, Loumir Laprès et Jérôme Lavrieux avec vous également au 32-16 pour parler de cette proposition du Modem. Travailler 35h30 au lieu de 35 pour financer les retraites. Bonne ou mauvaise idée? On attend bien sûr vos avis. Il y aura RMC S'engage pour vous vers 14h30. On essaiera d'aider des jeunes parents qui se sont fait arnaquer par un site internet de puériculture. Les immanquables, évidemment, avec Rémi Barré, ce sera vers 14h35 et puis on vous fait gagner énormément d'argent sur RMC cette semaine.
Ouais, RMC défend votre pouvoir d'achat ce mercredi toute la journée. Nous vous remboursons vos factures pour l'hiver, bois, gaz, fuel, électricité. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant le mot facture par SMS au 73216, facture par SMS au 73216. Et si vous êtes un pro, on ne vous oublie pas, nous allons rembourser l'un d'entre vous jusqu'à 2000 euros. Ce sera ce mercredi dans Estelle Midi. Vous envoyez tout de suite pro par SMS au 73216, pro par SMS au 73216, 2 SMS 75 centimes par SMS.
RMC Estelle Midi.
14h03 sur RMC et on va passer tout de suite à la proposition du jour dans Estelle Midi et c'est celle du Modem. Qui souhaiterait que les Français travaillent 35h30 plutôt que 35 afin de financer la réforme des retraites? Alors ça paraît anecdotique Rémi, mais une demi-heure de plus par semaine, eh bien ça ne l'est pas du tout anecdotique.
Oui, d'après les députés Modem, partisans de cette idée, la mesure apporterait au moins 2 milliards d'euros par an. Une proposition qui passerait par le dépôt d'un amendement dans le projet de loi sur la réforme des retraites, actuellement en discussion. Le chef de file Modem, en charge de la question des retraites justement, Philippe Vigier, explique s'il y a une demi-heure de travail en plus par semaine, cela génère des cotisations sociales et cela permet de consolider financièrement le système de retraite par répartition. Dans les faits, de nombreux salariés travaillent déjà plus de 35 heures. Aujourd'hui, la moyenne effective de travail, c'est 36h30 par semaine et ils sont alors payés au-delà de 35 heures en heures supplémentaires défiscalisées. Mais l'opposition est vent debout contre cette idée. Pour le PS, le projet de la majorité se résume à démanteler une à une toutes les conquêtes sociales des 50 dernières années, alors que la France Insoumise et le Parti Communiste, là, des élus se demandent si la prochaine idée, ce sera de supprimer une semaine de congés payés.
Ah oui, carrément. Alors, bonne ou mauvaise idée, travailler 35h30 au lieu de 35, Jérôme Lavrieux?
Moi, ce qui me fait marrer dans ce truc-là, parce que ça se fera pas, donc... C'est juste
pourquoi.
La réaction de l'opposition de gauche et d'ultra-gauche qui se met, par pur sectarisme, avant même d'étudier le truc, se met à défendre la défiscalisation des heures supplémentaires. Parce que cette demi-heure en plus, c'est juste une défiscalisation.
Qui a été créée par Sarkozy.
Fut un temps sous Georges Marchais, on aurait dit que c'était un cadeau pour le grand patronat. Mmh. Et c'est l'extrême gauche qui défend ça. Donc je trouve ça drôle. Parce qu'en fait, c'est revenir sur la défiscalisation et le fait que ce soit pas imposable non plus. C'est-à-dire, ça coûte moins cher à l'entreprise, ça coûte moins cher à la personne concernée. Je trouve, on est dans un retournement des valeurs qui est assez extraordinaire par pur dogmatisme.
Sur le fait... personne ne travaille 35 heures. Donc
non, mais je suis d'accord parce que Rémi nous disait 36h30 en moyenne. Et mais si on inclut deux, ça c'est pour les salariés. Si on inclut toutes les personnes qui travaillent en France, la moyenne c'est 39,1 heures. Donc on travaille beaucoup plus que les 35 heures. Et je rappelle que comptablement, à la fin, ça changera à rien.
Puisque parce que je mets les cotisations là-dessus. Parce que,
oui, mais quand c'est une exonération de cotisations de la part de l'État. Et donc l'État compense pour les caisses de retraite ce qu'il exonère par sa décision politique. Donc c'est une dépense fiscale d'un côté ou ce serait une recette fiscale de l'autre.
Oui, enfin, l'État dépensera moins et on mettra à contribution les salariés.
Et 2 milliards d'euros, c'est rien pour vous.
Mais non, mais ce sera toujours 2 milliards, ou que ce soit l'État qui le verse sous forme de fonds pour les retraites, ou que ce soit l'État qui le perçoit puis qui le reverse, ça c'est un jeu à somme nulle.
Mais moi, j'ai une autre
solution.
C'est
pas ça qui peut sauver le système des retraites, ça s'appelle une dépense fiscale.
Enfin, 2 milliards, c'est toujours à prendre, surtout quand c'est indolore.
Mais moi, j'ai une autre solution. Je vous reparle encore de mes 2% d'imposition sur les 370 ménages les plus riches de France.
Ah ben non, c'est 370, c'est 43 tout à l'heure.
Non, c'est 43. L'inflation,
ça va vite.
Attends, il y a 43 milliardaires. Mais si on prenait 2% uniquement sur les 370 ménages les plus riches.
Et pourquoi 370 et pourquoi pas 4 000?
Parce que ça fait exactement 12 milliards, c'est-à-dire exactement
le déficit
supposé du Corps. Je rappelle quand même que le Conseil d'orientation des retraites a 4 scénarios et seulement dans un scénario il y a un déficit des retraites et il est de 12 milliards. Parce que moi, pour être transparente et pour ne pas être une caricature de gauchiste...
C'est un procès d'intention que tu me fais.
Tu dis c'est eux-mêmes des caricatures de gauchistes.
Ah bah, sur cette mesure-là, franchement, la gauche qui défend la défiscalisation du travail, j'étais nul en histoire politique, mais là, franchement...
Je suis pas sûre que ce soit pour ça qu'ils le fassent. À mon avis, ils le font plus tant pour défendre les 35 heures. Moi, j'ai pas de sujet d'avoir cette journée de la solidarité, de travailler un peu plus pour financer des choses qui me tiennent à cœur. Je pense par exemple à la transition écologique. Je pense qu'en effet, moi, je ne m'y opposerai pas. En revanche,
toi, tu veux travailler plus pour le climat, mais en revanche, pour les seniors.
Attends. Encore une fois, le nom même de journée de la solidarité, ça fonctionne, la solidarité, si tout le monde s'y met. Or, en ce moment, c'est un peu le principe de la solidarité, tout le monde participe à hauteur de ses moyens.
Travailler gratuitement, c'est le retour au Moyen-Âge.
Il s'avère que, à hauteur de leurs moyens, les milliardaires et les 370 ménages les plus riches peuvent faire quelque chose pour nous, parce que si on taxait seulement 2% de leurs revenus, on n'aurait plus de problème de financement des retraites. Donc pourquoi faire ça en fait ? Moi j'ai une autre solution.
Parce que ça peut être logique et que c'est encore une fois, c'est
Encore une fois, je pense qu'il faut le replacer, parce que ce qui me choque beaucoup avec la manière dont le gouvernement présente cette retraite, c'est qu'ils nous font croire qu'il n'y a pas d'autre solution.
Le gouvernement, c'est le gouvernement.
Je parle de la retraite. Oui, je sais, le gouvernement a dit non. Bah eux, ils doivent s'en retourner.
Ah, puis alors tout de suite. Il n'y a pas eu de temps de latence. Olivier Véran, il est arrivé, bim bam,
il a dit
terminé,
non, c'est hors de
parce que
question.
C'est intelligent, évidemment.
Alors Péricot, pourquoi c'est intelligent ?
Alors, d'abord, c'est intelligent parce que tout ce qui va, pourquoi pas, hein.
Je t'ai défendu pour une fois.
Merci Jérôme, et je te revaudrai ça
quand
ton parti politique sera en difficulté. Ce n'est pas le cas.
J'en ai plus de parti politique.
T'en as plus. Non. Le vrai fléau, ça a été les 35 heures, qui a été une source d'appauvrissement de l'économie française. C'est une des lois les plus bêtes qu'on ait fait dans ce pays. Et avec la retraite à 60 ans, qui est un fléau également. Voilà. Donc,
c'est un fléau de travailler.
Et je dis ça depuis une posture de gauche. Je crois à la valeur travail.
Je me pose la question.
Et je crois au droit des retraités. Donc, 60 ans et 35 heures, c'est de la démagogie qui nous a coûté une fortune et qui nous met dans une panade pas possible. Effectivement, c'est une mesure assez... Elle est indolore, comme vous le dites. J'aurais dit 36, alors on va faire 35 et demi, parce que 36, ça serait pas du tout passé. 35 et demi, ça passe pas non plus. Voilà.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel,
c'est pertinent, c'est percutant, c'est rationnel. Et donc, on comprend tout à fait que ce gouvernement, qui est un petit peu borné sur des axes, ne puisse pas accepter. C'est dommage, ça vient de la majorité, quand même. Ça, je comprends pas. Et la solution que ça apporte...
Le modèle, c'est la taxe sur les super-profits également, et ce n'est pas passé, je vous rappelle.
Mais donc le MoDem est dans son rôle de parti, pas si les démocrates chrétiens, en tout cas progressistes, en tout cas dans le sens des intérêts de la République. Le président Macron, qui a besoin des élus du MoDem, ferait mieux de
l'écouter. Mais pourquoi, si tu es de gauche, cette proposition de taxe 2%...
Je dis pas que j'ai de gauche, pour la gauche, c'est une mesure qui va... dans l'intérêt des salariés, des travailleurs et du social. C'est
tout, ça résout le problème.
Ça désappauvrit la France. Ça fait du bien aux pauvres. Pour vous, la gauche, les pauvres, ça n'existe pas.
Ah bon, pardon, excuse-moi.
C'est les catégories sociales qui vous intéressent.
Péricot, tu peux pas dire que les pauvres n'intéressent pas la gauche. Enfin, littéralement, qui propose le RSA à partir de 18 ans ? Qui propose la retraite ? Le retour de la retraite à 60 ans, alors que ce sont les pauvres qui meurent le plus de la retraite. Qui meurent le plus avant ou au moment de leur retraite. Qui propose... Non, mais attendez,
vous n'êtes pas socialiste. Bon. Vous êtes des idéologues, vous n'êtes pas socialiste.
Non, mais alors, je ne me sens pas concernée, je ne suis pas socialiste.
Okay. On va prendre Corentin, qui nous appelle de Brignais dans le Rhône. Bonjour Corentin.
Bonjour.
Corentin, est-ce que vous seriez prêt à travailler 35h30 au lieu de 35? Si vous ne les faites pas déjà, d'ailleurs.
35 heures, parce que moi, du coup, je travaille 39h et je suis payé 35.
Bien sûr.
La majorité des Français.
Donc vous en fichez, en fait, ça vous irait ?
Surtout, ce serait peut-être mieux déjà de travailler 39 heures et de payer 39 heures. Je pense que ça, du coup, ça aiderait à financer tout le système.
Alors là, vous mettez Loumière Lapré en PLS, hein, je pense, là, en disant ça. 39 heures, ça me paraît beaucoup pour elle. Qui voudrait travailler 30 heures.
Non, je suis d'accord avec le fait que si on travaille 39, on doit être payé 39.
Oui, mais les 35 heures, les 35 heures, je vous rappelle qu'en fait, personne n'a été payé plus. Enfin, il y a eu des RTT, mais...
Ça appauvrit tout le monde.
Exactement. Corentin, donc vous, ça vous semble sensé, en fait ?
Sensé, mais pour moi, 30 minutes, c'est parce qu'ils veulent pas froisser, mais ça sert à rien, quoi.
Ça sert à rendre 2 milliards, quand même.
Oui, bah t'en rajoutais 4 heures du coup. Si 30 minutes, 2 milliards, 4 heures, ça rajoute combien du coup?
Ouais, mais 4 heures, là, si vous dites aux Français, écoutez, vous allez partir à 64 ans et en plus, vous allez travailler jusqu'à 30 ans. Oui, mais ils le savent tous.
Je comprends ce que veut dire Corentin. J'aurais mis une heure. Voilà, j'aurais dit 36.
Moi aussi, ça fait un contre-on. Ça fait un contre-on. Mais enfin, en tout cas, voilà, Corentin qui dit que.
Et dans les faits, les gens travaillent déjà cette durée-là. Hein.
Mais oui.
Mais c'est pour ça.
Oui.
C'est comme quand vous mettez les limites à 30 km/h alors que la moyenne est à 23. Bon, en fait, ça, et les gens gueulent alors qu'en fait, ils iront pas moins vite, en fait, parce que la moyenne est à 23.
Il y a plein de gens qui travaillent 35 heures quand même.
Merci, Corentin, d'avoir été avec nous. Pardon?
Il y a plein de gens qui travaillent 35 heures.
Oui, les fonctionnaires.
Non, pas que. Quand t'es vendeuse, pareil. Moi, j'étais vendeuse chez André pendant mes études. T'as des contrats à 35 heures. Hein. Enfin, non, à 34 parce qu'ils veulent pas donner les avantages. Donc
voilà,
voilà. Mais je veux dire, il y a plein de gens qui font des heures exactes et qui sont à 35.
Oui, mais la moyenne n'est pas du tout à 35 heures.
Heureusement pour le pays d'ailleurs.
Exactement. La moyenne est
beaucoup plus élevée.
Exact. Et plutôt à 39 qu'à 35. On est avec Benoît Serre, c'est notre invité sur ce débat, vice-président de l'Association nationale des DRH. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Et c'est un plaisir. Comme d'habitude, de vous avoir avec nous. Benoît, c'est une bonne mesure, ça, de travailler 35h30 plutôt que 35 pour financer les retraites?
Alors, deux choses. La première, vous savez qu'en France, le temps de travail hebdomadaire, c'est une espèce de chiffon rouge.
Donc,
si le gouvernement, enfin, je crois que c'est le Modem qui propose ça, veut ajouter au débat sur la réforme des retraites un débat sur le temps de travail, bon courage. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit. Tout
mais si c'est
adapté
à la place,
ça résout.
Oui, pas sûr que ça le résolve, mais non, le deuxième sujet qui est plus intéressant, c'est que d'abord, depuis les 35 heures de l'époque, enfin quand ça avait été mis en œuvre, il y a énormément de textes qui sont venus créer des solutions d'assouplissement, parce que l'un des premiers drames des 35 heures, c'est que ça a normé tout, comme si toutes les entreprises se ressemblaient. On a vu ça, évidemment, tout le monde pense aux infirmières, mais pas que. Donc, si on fait la même chose pour 35 heures ou 35 heures et demie, c'est un peu stupide parce qu'on aura le même résultat, c'est-à-dire que ça sera pas adapté à certaines organisations. Or aujourd'hui, vous avez un certain nombre de textes qui permettent aux entreprises d'adapter leur temps de travail, non pas en dépassant les fameuses 35 heures, mais en organisant différemment le volume d'heures. Et le dernier point, c'est que si on doit effectivement remettre sur le plateau le sujet du temps de travail hebdomadaire ou l'organisation du travail, alors il faut pas le faire avec une demi-heure de plus, il faut faire pour repenser l'organisation du travail et le temps de travail dans ce pays, ce qui est sans doute nécessaire. Ça ne veut pas dire l'augmenter ou pas l'augmenter, mais je vais vous donner un exemple. Vous en avez déjà parlé ici.
Ouais.
Vous prenez le télétravail. Quelqu'un qui a 35 ans en télétravail, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne va pas pointer chez lui.
Ah, c'est sûr.
Donc, il y a un sujet de repenser la manière dont on comptabilise le temps de travail dans ce pays, déjà.
Ça faut compter en jours et pas en heures, par exemple.
Vous pouvez imaginer de compter en jours.
C'est le cas pour la plupart des cadres.
Pour la plupart des cadres, mais on s'est rendu compte, vous vous en souvenez sans doute, que lorsque le confinement a été fait en mars 2020, l'une des premières décisions prises, ça a été d'élargir ce qu'on appelle le forfait jour. Donc c'est peut-être vers ça qu'il faudrait réfléchir. Donc, moi, j'ai rien contre le fait qu'on remette en cause ou on réétudie la manière dont on organise le temps de travail, la manière dont on comptabilise, mais qu'on le fasse d'une manière un peu plus large que simplement rajouter une demi-heure pour payer les retraites.
Oui, donc pour vous, en fait, c'est un gadget, quoi. Ça sert pas à grand-chose.
Je pense que
c'est
un peu un gadget et qui risque d'ailleurs de crisper encore plus, alors qu'il me semblerait que le pays est déjà assez crispé comme ça.
Alors, on a resté avec nous, hein, bien sûr, Benoît. On a beaucoup de messages, Rémi, sur ce sujet. Est-ce que les Français sont prêts à travailler plus ou à
cotiser plus, en tout cas? Il y a beaucoup de réactions et quelques règlements de compte également. Il y a Christophe qui nous dit bonjour. Encore des propositions déconnectées de la réalité. La demi-heure supplémentaire sera passée à la machine à café où on pose cigarette et ça plomberait les entreprises. Le minimum serait deux heures de manière à créer de la richesse. Bien à vous, Christophe, qui est chef d'entreprise. Et il y a Cyril qui nous dit bonjour. Travailler 35 heures, pourquoi pas, mais il faudrait déjà que certains daignent travailler effectivement 35 heures. Quand on voit qu'à la mairie de Paris, ils ne veulent pas bosser plus de 32 heures alors qu'ils sont payés
28.
35.
Ouais. C'est 28, ouais. Je te rappelle, c'est pas 32.
Bah, c'est ce qu'il nous dit, lui.
32, et... c'est avec la réforme.
Ouais, mais bon, on a dû passer devant la loi pour que ça, on aboutisse à 35 heures.
Exactement. On a donc plein d'auditeurs qui nous appellent. On va prendre tout de suite Alain, qui nous appelle de Coux, ou Coux, en Charente-Maritime. Ça se prononce comment, Alain?
Coux.
À Coux, en Charente-Maritime. Alain, vous êtes prêt à travailler 35h30, vous?
Voire même plus, 39.
Ah oui.
Pour moi, les 39 heures, c'était une grosse connerie.
Mmh.
De passer à 35 à 39, pour moi, ça ferait déjà ça. Pour moi, ce serait sans exonération de charges, sauf pour les, les qu'on s'appelle la cotisation pour la retraite. Moi, comme ça permettrait de cotiser oui. maintenant. Au lieu de, je préférerais plus cotiser maintenant que de cotiser dans
à quoi serait donc de travailler plus quoi.
Et si je peux gagner quelques trimestres ou quelques années à la fin de ma carrière, ce serait pas plus mal. Et pour moi, en même temps, ça permet de faire surtout ceux qui travaillent que 35 heures, ça permet d'avoir un pouvoir d'achat plus important vu la situation actuelle et de redynamiser un petit peu tout le pays et de remettre la machine en route. Donc pour moi, voilà.
Donc vous êtes plutôt pour. Ben merci Alain d'avoir été avec nous. Benoît Serre, comme vous êtes vice-président de l'Association nationale des DRH, vous avez plutôt un regard large sur ce qui se passe en France. Est-ce que les Français aujourd'hui sont prêts à travailler plus ? Je parle pas en années, mais je parle en heures dans la semaine, justement, pour pouvoir continuer à partir à la retraite à 62 ans, par exemple.
Je pense qu'effectivement, je serais pas étonné que les gens soient assez intéressés pour certains métiers. À avoir une organisation du travail qui soit un tout petit peu plus souple et qu'on puisse comptabiliser plus souvent en jour ou en heure. Donc, travailler un peu plus, mais est-ce que pour autant ça sauvera, ou entre guillemets, le régime des retraites ? J'en suis pas intimement convaincu. Donc, il faudrait pas qu'ils se disent, en fait, c'est une sorte de double peine. Par contre, je trouve que le débat, il est intéressant, j'ai dit tout à l'heure, parce que il va falloir quand même un matin se réfléchir à comment on organise le travail dans ce pays, parce que vous avez beaucoup de gens qui veulent pas travailler plus parce qu'ils trouvent que tout ça est très mal organisé, tout ça est très contraignant, tout ça. Et c'est pas dire qu'ils veulent, moi je crois pas qu'ils veulent moins travailler qu'avant. Ils veulent juste avoir des conditions d'organisation du travail un petit peu plus adaptées à la réalité.
Bien sûr.
Et ça vaut, c'est sans doute un débat qui vaut le coup.
Bien sûr.
Ça, il y a plein de Français qui voudraient même travailler plus que 35 heures, mais sur 4 jours, par exemple. Oui.
D'ailleurs, on a vu dans la manifestation de samedi dernier un étudiant philosophie qui a dit qu'il faudrait travailler 4 heures par jour pendant 4 jours, soit 20 heures. Bon, j'étais resté à 4h16, mais je pense que c'est une réforme
Souviens de l'enthousiasme qu'avait suscité la mesure de Sarkozy, qui était de défiscaliser les heures supplémentaires. C'était une mesure brillante, intelligente. Tout le monde était content. Et la gauche, monsieur Hollande, pour des raisons idéologiques,
et Jean-Marc Ayrault,
l'ont saqué parce que c'était la droite qui l'avait faite. C'est l'aberration.
Mais enfin, on est revenu dessus, donc voilà.
C'était comment on analysait quelque chose qui était finalement qui profitait à tout le monde.
Voilà. Moi, je pense que c'est quand même important de s'interroger, encore une fois, qui est mis à contribution. Pourquoi est-ce que c'est toujours les salariés qui doivent travailler plus ? Alors là, on parle de travailler plus longtemps dans la semaine, travailler plus longtemps dans la durée. En fait,
vous voulez que les retraités travaillent plus, ça va être compliqué.
Non, les retraites, travailler plus longtemps, je veux dire. moi, ça m'interroge quand même, vraiment, et je vais revenir là-dessus, je suis désolée, mais on vit dans un monde, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore toutes et tous intégré ça. On vit dans un monde qui se polarise énormément, qui s'extrémise. C'est-à-dire qu'il y a quand même la fortune des milliardaires, elle a doublé pendant le Covid, et 99% des gens ont baissé leur niveau de vie. Si on prenait 2% de la fortune de tous les milliardaires du monde, on donnerait à bouffer à 2 milliards d'êtres humains. Donc en fait, je suis désolée, mais je reviens encore là-dessus.
Mais on peut aussi tout
leur pourquoi ? Non, mais en fait, c'est pas ce que je dis, c'est ça mon
émission,
point. Je suis pas
anti-riche. Pris 5 fois 2%, donc on en est déjà un paquet quand même.
Non, il y a 2% sur les milliardaires, sur les 370 milliards ménages, français, et 2% sur les tous les milliardaires du monde. Ça
Mais s'il y avait 20 milliards de déficit, donc tu prendrais sur les 1000. En fait, voilà, tu regardes pas le revenu de ces gens, tu regardes juste par rapport à ce qu'il faut en fait.
Mais je regarde par rapport à leur revenu,
par les emplois qu'ils créent.
Mais en fait, il faut arrêter. Je suis désolée, mais prendre 2% à un milliardaire, qu'est-ce qu'il va faire de son argent en plus ou en moins ?
On lui prend déjà plus de 2%. Mais tu penses bien que c'est pas 2% sur zéro. Enfin, j'ai un moment.
Bien sûr. On a quand même, je vous l'ai dit, établi que le taux d'imposition réel des milliardaires en France, c'est 2%. C'est 2%.
Et pas
c'est
des sociétés à l'étranger.
Non, mais oui, d'accord. Mais le fait est que c'est 2%. Pardon, mais c'est pas moi qui le dis, c'est des économistes. Et donc, il y a un moment, il faut m'expliquer pourquoi quelqu'un qui est aide-soignante, quelqu'un qui travaille à la chaîne, ça ne nous pose pas de problème de lui dire qu'il va bosser 2 ans de plus. Mais par contre, quand on dit 2% de gens qui ont des milliards d'euros, le gouvernement gouvernement dit ça ne pose pas de problème. Ouais, mais je veux dire, le gouvernement nous dit ça ne pose pas de problème, alors que 2% de gens qui ont des milliards à ne plus savoir qu'en faire et tout ce qu'ils font, pardon, encore une fois, mais c'est pollué avec tout cet argent.
Mais ça, c'est pollué.
Plus t'es riche, plus tu pollues.
Non, mais d'accord, mais enfin,
plus t'es riche,
plus tu regardes que par le bout de la lorgnette.
La grande philosophe Sandrine Rousseau a dit que travailler crée trop de CO2, donc il fallait ne plus travailler pour sauver la planète.
Il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet.
Ça,
c'est pas ce que je dis, mais il y a un vrai sujet.
Quand tu travailles,
merci de réduire la pensée écologiste à ne plus faire de barbecue et quoi, tu vas me ressortir le Tour de France ou les
jardins
des
sapins
d'Noël.
J'ai oublié.
En fait, c'est pas vrai. Les écolos, ils ont une pensée qui est un peu plus complexe que
caricaturale.
Non, c'est pas caricatural. On vit dans un monde, et c'est là qu'en fait, j'ai l'impression que. On me dit que je suis extrémiste parce que je veux taxer les milliardaires. Quand il y a quelqu'un qui a 200 milliards d'euros, c'est ça qui est extrémiste.
Tu es comme moi, tu as un iPhone. Dont le prix de revient est multiplié par 10 pour enrichir le milliardaire actionnaire d'Apple.
C'est pour ça qu'il faut le taxer. Et pardon, je dis taxer, Français entendent taxer, c'est horrible, c'est affreux. Non, taxer des milliardaires, des gens qui n'ont pas besoin
qui taxe
de cet argent.
On est avec Bruno qui nous appelle de Ganges dans l'Hérault. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Bonjour Bruno. Et vous vouliez participer à ce débat assez enflammé, hein, Bruno, n'hésitez pas, allez-y.
Oui, je trouve que c'est un petit peu enflammé. Alors moi, à l'époque, quand il y a eu la loi Aubry, j'étais délégué syndicat et j'ai négocié les 35 heures pour ceux qui étaient déjà en place.
D'accord.
Tout en disant haut et fort, que ce soit à mon syndicat ou aux personnes avec qui j'étais en train de négocier, que moi je trouvais que c'était une connerie sans nom, parce que ceux qui étaient en place, c'était bien pour eux, ça leur permettait d'être payés 39 heures et bosser 35, enfin, ou avoir les 39 heures et récupérer deux jours par semaine de...
Enfin, deux jours par semaine, un jour par mois de RTT à peu près, ouais.
Non, deux.
Ok.
Ouais, deux jours de RTT par mois, mais pour ceux qui arrivaient, ça changeait pas grand-chose parce qu'eux étaient embauchés aux 35 heures, donc et pas payés 39. Et puis voilà, moi je serais plutôt pour le retour des 39 heures, parce que...
Comme Perry Colligas.
Voilà.
Voir payer 40.
Plus, gagner plus.
Voir payer 40.
Oui, voilà, oui. Ouais. Parce que moi, j'ai 56 ans, j'ai connu les 39 heures payées 41 ou 42.
Eh ben voilà, ça c'était le bon équilibre.
Voilà, donc vous êtes pour travailler plus, en fait, Bruno.
Ben c'est ça, ouais. Parce
c'est
que,
pas tout à fait dans l'air du temps, si je puis me permettre.
Ah ben pas du tout.
Ben ouais, mais écoutez, dans la boîte où je suis, là, j'ai 18 ans de carrière, je touche 1540 euros par mois. Ça fait 18 ans que je suis dans la boîte.
Ben c'est peu.
C'est peu. Alors que si je faisais 39 heures par semaine, eh ben ça fait 16 heures. Je gagne 160 ou 180 euros de plus à la fin du mois.
Et pour vous, ça fait une grosse différence, évidemment.
Bah oui, parce que moi, je fais 100 km par jour pour venir bosser.
Votre appel a été mis en attente.
Lui, il n'intéresse pas la gauche.
On a entendu le témoignage de Bruno.
Mais pas du tout, on propose l'augmentation des salaires. Donc en fait, ce monsieur, si jamais on lui augmentait simplement son salaire... Mais arrête. Pardon, mais en fait, vous avez vu Don't Look Up, le film où il y a une météorite qui va s'écraser sur la Terre et en fait tout le monde continue comme si rien ne se passait. Parfois, j'ai un peu l'impression d'être
S'il y a une météorite
dans cette
qui arrive,
situation.
Je te confirme que moi, je vais continuer à faire comme si rien ne s'est passé.
Ah bah très bien, ça tombe bien, ça s'appelle le dérèglement climatique et ça arrive.
Non, parce que ça a rien à voir, parce que la météorite, on n'arrivera pas à la déplacer.
Voilà, on est en train de. Excusez-moi, on est un peu en train de changer le débat. Mais finalement, Benoît Serre, quand on entend tous les auditeurs qui nous appellent, on se dit que la panacée, c'est le travail à la carte, quoi.
Ben, c'est exactement ce que j'essaye péniblement de vous dire.
Et la retraite aussi à la carte.
Mais je suis d'accord, Benoît, comme à chaque fois que vous intervenez.
Non, mais
c'est le bon sens.
C'est
le bon sens.
À la réalité des boîtes. Si vous voulez prendre un sujet, par exemple, d'actualité, alors je dérive un peu, mais le fameux index senior qu'on vous rend coercitif, il faut l'adapter à chaque boîte. Chaque boîte a une histoire différente. Et le temps de travail, ou l'organisation du temps de travail, c'est pareil. Et puis vous vous rendez compte qu'en fonction des âges, en fonction des métiers, en fonction des localisations, en fonction de la pénibilité de l'un ou de l'autre, l'espèce de monobloc 35 heures ne représente rien. Et c'est pour ça que nous, on appelle plutôt à une réflexion plus large sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail que de savoir si on passe de 35 à 35,5. C'est un débat du monde d'avant, comme on disait au moment du
Covid.
Ouais, mais Perico trouve que c'était mieux.
Il y avait un ministère du plan qui régissait tout ça. La France était puissante.
Ça ne nous rajeunit pas, quoi, du coup.
Voilà.
Tu sais qu'il y avait un contrôle des prix aussi dans ce ministère du plan, par exemple. Chose que la gauche propose.
Bon, merci Benoît Serre d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Des messages, Rémi, sur l'application RMC.
Oui, ce message, par exemple, oui, de Claudio qui nous dit sur l'application RMC Direct Studio, travailler plus de 35 heures, pourquoi pas, mais je n'y crois pas. Il y a trop de salariés en France qui sont attachés à leurs petits privilèges et qui ne pensent qu'à eux. Voilà. Il y a ce type de message aussi.
Mais c'est pas faux.
Pour rassurer Lumière, on va prendre la formule de Funès dans la folie des grandeurs. Les riches, c'est fait pour être très riches. Et les pauvres, c'est fait pour être très pauvres. Voilà, si tu veux te rassurer. Voilà.
Ça me rassure en
aucun. Bah non, mais c'est ça que tu es en train de dire, quoi, qu'on est en train de
sur. C'est parce qu'elle dit.
Non, si, c'est tu pas. Elle dit qu'il faut. Tu es en train de dire que notre théorie. Je dis c'est que les riches sont là pour être riches et que les pauvres sont là pour être
riches. Je dis que si on écoute notre auditeur qui nous a appelé en début d'émission et qui nous reparle de la devise française liberté, égalité, fraternité, pour qu'il y ait de la fraternité, il faut qu'il y ait de l'égalité. Et pour qu'il y ait de l'égalité, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient en séparatisme absolu et qui ne vivent plus dans le monde réel avec 200 milliards d'euros. En fait, ça n'est pas possible, à mon sens.
Bon. On vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Seriez-vous prêt à travailler 35h30 par semaine plutôt que 35, Rémi?
On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Ah. C'est très rare. C'est un 50-50.
Oh, incroyable.
Ouais.
Voilà. Bah, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ça rentre dans
la mouline.
Ouais, ça mouline.
Évidemment. Allez, dans un instant, on sera avec Amélie Rosy, qui RMC s'engage pour vous. Et on va tenter d'aider des jeunes parents qui se sont fait arnaquer par un site internet de puériculture. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Il est 14h30 et c'est l'heure de vous aider. RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et c'est le grand retour d'Amélie Rosic sur le plateau. Salut Amélie.
Salut Estelle.
Et aujourd'hui, Amélie, vous aidez des parents au bord de la crise de nerfs.
Ouais, vous le savez probablement, pour ceux qui ont des enfants en tout cas, l'arrivée d'un enfant, c'est beaucoup de bonheur, hein, mais c'est aussi une petite logistique quand même à anticiper.
Et c'est cher.
Et c'est cher. La poussette, elle fait partie globalement des indispensables et c'est quasiment le plus cher. Hein. Le réflexe, c'est évidemment d'aller sur Internet pour comparer les prix, comparer les marques, essayer de s'y retrouver un petit peu. Et l'un des premiers sites référencés sur Google, quand vous tapez hein, poussette, c'est Natal Market. Ils ont des boutiques à Paris, Lyon, Marseille. De quoi inspirer confiance, qu'ils ont pignon sur rue. Et pourtant, Camélia a déboursé 330 euros pour une poussette qu'elle a commandée au mois d'août. Sa fille est née en octobre. La poussette, elle, n'est jamais arrivée.
Ah. Même à la maternité, dans la salle de travail, j'essaie de les rappeler en leur demandant s'en est où, etc. C'est très perturbant parce que c'est un moment de la vie qui doit être magique. Et en fait, on a des espèces d'arnaqueurs, et je m'en rends compte maintenant, qui profitent de ça, qui gâchent cet instant-là. C'est d'autant plus rageant, en fait. Ça
m'a coûté. Alors Amélie, on entend Camélia parler d'arnaque et elle n'est pas la seule. Et c'est dingue parce que Natal Market, c'est une marque très connue pourtant.
Très connue et qui a vraiment pignon sur rue. Sauf que quand on fait une recherche assez rapide à Natal Market dans Facebook, bah, on tombe sur une page intitulée « Fraude Natal Market » qui réunit quand même plus de 300 parents. Parmi eux, une soixantaine de familles ont pris contact directement avec nous. Alors Johanna Chabas, elle a pris sa petite calculette, elle a fait un petit tableau Excel et puis elle a additionné le montant de leur commande. Il y en a pour plus de 35 000 euros quand même. Sur 60 personnes. Donc je vous laisse imaginer sur les 300 personnes du groupe Facebook. Nous avons évidemment demandé des comptes à Natal Market. La direction nous explique qu'elle est en pleine réorganisation, en pleine restructuration, que ça a pris plus de temps que prévu suite aux événements récents. Et elle cite pêle-mêle les grèves, les gilets jaunes, le Covid.
Les gilets jaunes, ils ont pas
pour expliquer
les mi-saisons.
Voilà, je vous laisse juge. Sauf que nous sommes allés vérifier nous évidemment et la marque Baby Zen qu'ils proposent à la vente, c'est Baby Zen, c'est les poussettes yo-yo, pour ceux qui connaissent, nous affirme n'avoir absolument aucun problème d'approvisionnement. Pire, le fournisseur Cibex, qui fait aussi des poussettes, des sièges auto, nous informe qu'il a suspendu toute collaboration avec Natal Market depuis plusieurs mois. Tiens. Aujourd'hui, bon, d'ailleurs, le site Natal Market, il existe toujours, mais on ne peut plus commander dessus, on ne peut plus mettre dans un panier et payer. Et surtout, les boutiques, eh bien, elles sont toutes fermées.
Ah, c'est mort, alors.
Comment ? Voilà.
Amélie, évidemment, vous avez enquêté comme d'habitude et vous avez découvert qui se cache derrière Natal Market. Et malheureusement, bah, c'est pas très rassurant pour les clients.
Non, c'est pas très engageant. Natal Market appartient à une dame qui s'appelle Gwenaël Muntari. Cette entrepreneur, elle possède une myriade d'entreprises aux noms tous similaires. Alors, il y a Natal Développement, Natal Distribution, Natal Maternity, Natal Market, qui est un nom commercial et pas un nom d'entreprise. Bref, nous en avons identifié 10 et il y en a probablement plus. Elle et son mari James sont bien connus de la justice. Le couple Muntari a été condamné en 2021 à payer 40 000 euros de réparations et de dommages et intérêts pour parasitisme et concurrence déloyale. Alors ça a l'air compliqué comme ça, c'est assez simple. En fait, ils ont créé un autre site qui ressemble au premier et résultat, ça trompait les clients qui payaient à eux et pas au premier site. Voyez l'idée.
Ah, voilà. C'est malin.
Et ouais, c'est malin tant qu'on se fait pas prendre. voilà. Et James Montari, l'époux dans cette histoire, il n'en était pas à son coup d'essai parce qu'en 2015, il avait déjà été condamné. Il avait écopé quand même de 18 mois de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende pour pratique commerciale trompeuse.
Ça ne sent pas très bon.
Ça ne sent pas très bon pour les parents floués dans l'histoire. Ouais. Ils espèrent faire condamner l'entreprise quand même devant les tribunaux. Déjà, 20 familles avec lesquelles nous sommes directement en contact ont porté plainte pour escroquerie, comme Pierre, qui est papa d'un petit Victor.
On saisit le parquet de Paris, on saisit tout ce qu'on peut saisir, on saisit. Et statu quo, ça avance pas. On a un peu le dindon de la farce, on se dit que c'est plus dur de dénoncer l'escroquerie en fait que escroquer, parce que le site est hébergé en France, le compte en banque est en France, les dirigeants sont français, enfin tout est là et on n'arrive pas, ça avance pas, on n'a aucune réponse. Ce qu'on aimerait, c'est juste au moins qu'il y ait une enquête d'ouverte, qu'ils aillent un petit peu en garde à vue, qu'ils répondent un peu de leurs actes, ça nous ferait très plaisir.
Nous avons évidemment contacté le parquet de Paris qui n'avait rien à nous dire sur cette affaire pour le moment, je dis bien pour le moment. Vous l'avez compris, c'est quand même assez récent les plaintes. Quant à la gérante de Natal Market, Gwenaëlle Muntari, après de multiples relances de notre part, Johanna Chabas l'a quelque peu harcelée, mais elle nous répondait à chaque fois en disant « je vais vous répondre ». Bon, on a fini par recevoir un communiqué de presse à 22h30 hier soir. Et Gwenaëlle Muntari estime n'avoir commis aucune infraction, parle de simple retard, pour certains c'est quand même un retard de 8 mois, hein. Et s'engage, c'est par écrit, à rembourser ou livrer l'intégralité de ses clients. Nous verrons bien si elle tient ses engagements, on en doute trop. un petit peu.
On n'y croit pas des masses et c'est bien dommage pour ces jeunes parents qui ont d'autres chats à fouetter que de s'occuper d'un retard, d'un positionnement de poussette. Ouais. On sait que c'est moment, c'est pas toujours facile.
Non, ouais.
Et voilà, quand on a ça en plus dans la tête, c'est pas simple. En tout cas, bon courage à eux, on espère que ça va se régler, mais c'est vrai.
On les lâchera pas.
Pour une fois, on n'est pas très optimiste. D'habitude, on est très optimiste dans.
Oui, mais.
RMC s'engage pour vous, mais là.
Si d'autres médias viennent soutenir RMC dans cette démarche, on peut faire un peu de pression.
Ouais. S'ils ne sont pas solvables.
Oui, et puis s'il n'y a ni poussette ni argent, si vous voulez, ça va être quand même compliqué. On parle de quoi demain, Amélie ?
Alors, demain, c'est une sacrée histoire. Et oui, c'est une histoire d'assurance vie, mais qu'on découvre un peu comme ça, par hasard, 10 ans plus tard. Je vous en dis pas plus, que vraiment, ça vaut le détour.
Bien, ça. Super. Amélie Rosic, demain, et chaque jour, bien sûr, sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, 14h30. RMC s'engage pour vous. Et puis, si vous aussi, vous voulez être aidé par Amélie et toutes ses équipes, vous n'hésitez pas. Votre adresse, celle à laquelle écrire, c'est RMC pour vous, @rmc.fr. Merci beaucoup. Amélie, dans un instant, les immanquables. Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est toujours avec Rémi Barré, Perico Légas, Loumir Laprès et Jérôme Lavrieux. Et tout de suite, voici les immanquables, les infos qu'il ne fallait surtout pas rater aujourd'hui.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on va tout de suite commencer, Rémi, avec le chiffre du jour.
Selon le Haut Conseil à l'égalité, 37% des Françaises ont déjà vécu un rapport sexuel non consenti. Dans le détail, 14% des Françaises déclarent avoir déjà subi un acte sexuel imposé. Et plus largement, 37% disent donc avoir vécu des situations non consenties dans les rapports sexuels, dans un rapport non protégé, par exemple. Hein, c'est le cas, par exemple, devant l'insistance de leur partenaire. 12% non consentis sous l'effet de l'alcool ou de la drogue également pour 7% d'entre elles.
Et ce chiffre, il est vraiment incroyable, hein, Loumir Laprès.
C'est terrifiant, surtout que le reste des chiffres est tout aussi terrifiant. Hein. 37% des hommes qui pensent seulement que c'est pas normal qu'une femme cuisine tout le temps, tous les jours, pour toute la famille. Voilà. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment glacée quand j'ai lu ce rapport, c'est la jeunesse des hommes. Plus les hommes sont jeunes, plus c'est grave, plus ils ne voient pas le problème à frapper leur conjointe, parce que certaines situations peuvent mener à la violence, enfin, mais des trucs complètement délirants. Donc, moi, je suis pas surprise, enfin, pour avoir été dans les milieux de l'égalité femmes-hommes depuis longtemps, je veux dire, c'est des choses qu'on dit, c'est des choses que les militantes féministes disent depuis des années. Moi, ma question, elle est assez claire, au gouvernement notamment, c'est quand est-ce que vous nous donnerez les moyens pour résoudre ces problèmes? Ça fait des années qu'on demande 1 milliard d'euros pour les luttes contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux filles. Et en fait, les solutions, elles existent. Vraiment, on le sait. Moi, je ne comprends pas comment on peut augmenter le budget de l'armée de
407.
Oui, 407, mais bon, avant il était un tiers de plus, mais que un milliard, un tout petit milliard d'euros, pour s'assurer que nos mères, nos sœurs, nos filles ne soient pas violées au quotidien, ne soient pas agressées dans la rue ou sur leur lieu de travail.
Pas les milliards du gouvernement qui vont faire que tu seras pas.
Parce que pour le coup, les assos féministes, elles ont demandé ce milliard avec un fléchage très très précis sur les actions à mettre en place, notamment je pense dans les cas les plus graves à la démultiplication de foyers pour les femmes victimes de violences, des hébergements d'urgence.
C'est pas de ça dont on parle dans ce rapport, en fait.
Bah si, on parle de la généralisation, de la banalisation du sexisme qui peut mener.
Oui, dans les cas les plus graves, bien sûr. Voilà. Mais évidemment qu'il faut saisir des cas les plus graves, tout le monde est d'accord là-dessus.
L'éducation sexuelle à l'école, qui est complètement liée, parce que là,
quand il y avait une obligation, Papendia, il en a parlé.
Il y a une obligation depuis 2011, la loi Taubira, qui dit que c'est normalement 3 sessions par an, à partir de la 6e. Il y en a en moyenne aujourd'hui une dans toute la scolarité. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, depuis 2011, c'est dans la loi. Donc ça aussi, ça demande des ressources, parce qu'il faut payer les gens.
Ça dépend des établissements.
Oui,
en fait.
Alors c'est entre voilà, une et deux en moyenne. Oui. Dans la scolarité, alors ça devrait être 3 par an.
Oui, peut-être, mais ça, c'est aux établissements de faire le nécessaire.
Bien sûr, mais c'est aussi un sujet de ressources. Parce qu'en fait, avec un budget fléché là-dessus, il y aurait de plus en plus d'assos, notamment, qui pourraient embaucher des intervenants. Et ça, c'est vraiment, moi, je pense que c'est essentiel. On parle de la moitié de la population, là, en fait, quand même. Hein.
Oui. Ce qui est étonnant, Perico, c'est qu'on a beaucoup entendu, puis on a certainement vu aussi de plus en plus de jeunes hommes, de jeunes garçons, qui sont très préoccupés, justement, par la condition des femmes, par le sexisme. Voilà, et qui sont déconstruits, comme dirait Sandrine Rousseau. Donc c'est pour ça que ces chiffres ils sont extrêmement étonnants.
Sylvie, Pierre Brossolette décryptait ce matin chez nos confrères de France Inter ce rapport alarmant, et elle dit que c'est une régression. Elle constatait par les chiffres que on pensait que la cause féminine, qui a quand même été défendue avec le MeToo, qui a eu une évolution,
bien
la situation est pire que jamais. Je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas un féminisme qui a pu être contre-productif à un moment donné?
Non, ça n'est jamais la faute des femmes. Ça n'est pas la faute des femmes si les hommes pensent que c'est...
Il parle de féminisme et pas de...
Bah, c'est les femmes qui gèrent la lutte.
Tu peux aussi être un homme et féministe.
Est-ce qu'il n'y a pas une forme de...
mène la lutte féministe.
Est-ce qu'il n'y a pas une forme de radicalité qui peut exister dans tout moment, le mouvement le plus noble, qui peut avoir, à un moment donné, dévié le... Voilà, et provoqué un malentendu. Parce que là, c'était les jeunes. Ce qui l'a choqué le plus, c'est que chez les jeunes adolescents... La femme, c'est jamais.
Pour le rapport, il n'y a pas de malentendu. Là, on parle de rapport sexuel non consenti.
Oui, oui.
On parle de.
C'est un des éléments.
Sylvie
Pierre Brossolette allait plus loin. Elle dit cette avancée que l'on croyait globale, en fait, il y a une régression.
Mais t'as aussi une libération. Alors, t'as aussi une libération de la parole. C'est-à-dire que c'est des choses. Jamais, on t'aurait posé la question il y a 20 ans. Jamais t'aurais dit qu'il y avait. Et le pire, on t'aurait posé la question il y a 20 ans, enfin, aux femmes il y a 20 ans. On n'aurait même pas su que c'était non consenti.
C'est-à-dire
que
ça dit,
oh, ça va, c'est pas grave, c'est normal. Une fois, c'est, voilà. Et aujourd'hui, tu sais que, non, c'est pas bien. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi une évolution des mœurs et des filles qui, aujourd'hui, à 18, 20 ans, se disent, non, ça, c'est pas normal. Mm-mm. Là où les générations d'avant seraient dues,
Et le nombre de femmes qui
l'acceptent. C'est pas grave, c'est normal, c'est comme ça.
Ça fait partie du truc.
Et le nombre de jeunes femmes qui l'acceptent comme quasiment une fatalité ou une norme.
Non, justement, les jeunes femmes ne l'acceptent
pas. Non, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas pris conscience.
Parce qu'elles sont beaucoup plus éduquées que leur mère ou leur grand-mère l'était.
C'est aussi pour ça que les chiffres explosent.
Oui, exactement.
Là, on a des chiffres bruts. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir où, qui et comment.
Exactement.
Voilà. Ça, ce serait bien d'avoir des études sociologiques. Dans quel milieu, dans quel endroit la France, ça se passe.
Ça gênerait. Hein.
Voilà.
On a des chiffres qui disent que c'est à peu près tous les milieux, tous les âges. Enfin, pour le coup, c'est les mêmes chiffres sur les violences. C'est juste, ça se manifeste de manière différente. Mais c'est tous les milieux sociaux, malheureusement. C'est une maladie qui est largement.
Je crains que ça soit pas exactement comme ça.
T'assure. C'est comme l'alcoolisme et l'inceste. C'est tous les milieux sociaux.
On en saura plus. Je pense qu'il faut approfondir le sujet.
On va passer tout de suite à la facture du jour, Rémi.
Oui, la facture du jour. Dans un communiqué adressé à ses actionnaires jeudi dernier, Netflix indique que le partage de comptes sera bientôt facturé. Le déploiement devrait entrer en vigueur au cours du premier trimestre 2023, vers avril. La plateforme a estimé à 100 millions le nombre de foyers concernés par le partage de comptes à travers le monde. Une pratique qui compromet notre capacité à long terme à investir dans Netflix et à l'améliorer, ainsi qu'à développer notre activité, explique le géant américain.
Excusez-moi, moi je paye pour ça.
Tu peux avoir un abonnement par exemple pour toi et tes enfants,
ouais.
T'as trois comptes.
Ça c'est le multi-écran.
Et ton, voilà. Et puis un jour où ta fille n'utilise pas le compte, par exemple, t'as un ami au téléphone, tiens, je te donne mon code comme ça ce soir tu peux regarder Netflix. Ça maintenant c'est terminé. Avant c'était toléré.
Oui, mais c'est ce qui valait le succès de Netflix.
Comment ils vont faire? Comment ils vont s'en rendre compte?
J'ai localisé les téléphones.
C'est un peu comme le.
Et alors t'as le droit d'être chez des amis.
C'est comme être tweet facturé, mais ça va être une régression de Netflix, tant mieux pour le cinéma français.
Mais Netflix qui devient par le changement de la loi un des cofinanceurs, le deuxième derrière Canal+, même si c'est très loin derrière Canal+, dans ses obligations légales, je crois que c'est 40 millions d'euros par an, alors que les autres c'est presque 200 et quelques millions.
Du cinéma français.
Oui, cinéma français. Mais en fait, le multi-écran, si toi, tes enfants, etc., ça va continuer. Je suis pas actionnaire de Netflix, je défends pas le grand capital.
On paye pour ça, donc.
Mais
attention,
tu peux pas avoir une personne qui prend l'abonnement et comme ça se fait.
J'ai toléré, oui.
Voir, tu demandes une participation financière à d'autres personnes. Parce qu'avec les mêmes codes,
ça, c'est pas bien.
Bah oui, mais c'est ce qu'il fait, c'est contre ça qu'il lutte et c'est ce qui est très présent aux États-Unis.
Et ça va être très compliqué quand même pour eux de réussir à savoir. Ben non, mais tu as le droit de regarder Netflix.
Ils arrivent bien, à savoir ce que je regarde et me proposer des choses en fonction de ce que je regarde.
Oui, mais parce que c'est ton compte, etc. Mais comment ils vont savoir que c'est pas toi qui l'utilises, mais un copain, t'as pu changer de portable aussi ou t'as pu changer d'écran, donc ça paraît très compliqué. T'as le droit tu vas à l'hôtel ou dans tes gîtes, par exemple, si je vais dans tes gîtes, j'ai le droit d'utiliser Netflix sur ta télé, je vais prendre mes codes.
Je vais vous dire, j'ai découvert un truc tranquillou. Oui. C'est que j'ai une télé qui est compatible Netflix dans un de mes gîtes. Oui. Les gens mettent leur code et en général, quand ils partent, ils oublient de l'enlever. Ce qui fait que ça bénéficie pendant 6 mois, 1 an, tout le monde regarde Netflix au frais de la princesse. Voilà.
Mais ils ont pas et eux, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a encore sur mon code?
Ça fait
une position
trop bizarre.
Voilà.
Pas du tout envie de regarder un truc sur
les animaux.
C'est généreux Netflix.
On va passer au rappeur du jour.
Mario Maréchal et Gilbert Collard, très en colère contre le clip d'un rappeur dont les paroles comportent des menaces de mort et font par ailleurs l'éloge du député La France Insoumise Louis Boyard. Ils ont posté, Mario Maréchal et Gilbert Collard, des messages sur les réseaux sociaux faisant appel au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ce rappeur, il se prénomme Yanni, il a mis en ligne sa nouvelle chanson avec ses paroles. Bon voilà, je lis les paroles.
Oui, c'est pas de vous.
Je pèterai le champ à la mort du borgne. Jean-Marie Le Pen. Je le péterai à la mort de sa fille. Je péterai le champ à la mort de maréchal, comme mon grand-père à celle du maréchal. Voilà quelques extraits.
Ah oui, quand même, c'est extrêmement violent.
Il l'appelle pas à la mort, du coup, non, parce que moi, il y a eu un moment où j'ai cru. Attention, ça y est, je ne
parle d'égorger à un moment donné. Je crois que je parle d'égorger.
Je ne fais pas l'apologie de ce truc. Je dis juste, je suis surprise. Je pensais que c'était pire où il disait lui-même, j'ai envie de la tuer.
Non.
Là, il dit, je continue.
Oui, mais je continue.
Si je continue,
c'est faites de la place à l'Assemblée nationale. Il y en a 89 de trop, c'est les élus RN. Cordon sanitaire autour du cou.
Ah oui, d'accord.
Voilà, j'arrache le mal à la racine. Drapeau algérien en mairie. Continue.
Ah oui, d'accord. Non,
encore un mot, Louis.
Non, mais parce que je.
C'est de l'art.
Alors, c'est
après, c'est la liberté d'expression. Tu sais, Orelsan, il a une chanson qui s'appelle Sale pute. Voilà.
La liberté d'expression, c'est pas un droit absolu, général, de dire n'importe quoi. Non. En France, elle est bornée. Tu peux pas tenir des propos antisémites, tu peux pas tenir des propos racistes, tu peux pas faire des appels au meurtre, tu peux pas faire un appel à pendre 80 députés de la nation. Par ailleurs, je n'ai jamais voté, mais qui ont le droit d'être là parce qu'ils ont été élus.
Mais bien sûr, je suis d'accord, je ne dis pas qu'ils ne sont pas légitimes.
Elle n'est pas absolue, la liberté.
Un chroniqueur sur BFM hier trouvait qu'il avait le droit, que le rap, par principe, c'est de l'art, donc on a le droit de tout dire en fonction d'une phrase d'André Breton.
C'est la loi qui dit ce qu'on a le droit de dire.
Charles Consigny, en face de lui, l'entendait pas de cette façon. Oui, il y a l'apologie du terrorisme, à un moment donné, il y a des seuils qu'on ne peut pas franchir. Je suis voltairien, comme on dit, on donnerait notre vie pour que ces gens puissent. Mais là, ça pose un problème, surtout que ça dessert totalement la cause. Et les gens qui voulaient viser et insulter passent pour des victimes.
Ça ne dessert pas la cause de la connerie, parce que ça met vachement
la cause de la connerie.
Mais la cause de qui?
Non. Lui, il dénonce le Rassemblement National. Il amène de l'eau au moulin du Rassemblement National.
Peut-être qu'il cherchait juste des follows.
Il fait passer les jeunes immigrés qui veulent dénoncer le racisme du Rassemblement National pour, au contraire, des gens extrêmement agressifs.
Pour qui fait des amalgames, parce que je ne vois pas à quel moment on fait le rapprochement entre des immigrés algériens et ce gars.
En tout cas, il a fait l'apologie de Louis Boyard. On ne l'a pas entendu réagir, le député LFI, sur ce sujet, puisqu'il est dans la chanson.
Boyard, il est d'ailleurs l'image de Montré. Il est dans le groupe de rappeurs un peu déguisé, mais il a été démasqué.
Attends, on est sûr, ça?
Ah ben, hier, c'était sur BFM, c'était évident.
la colère du jour.
Ils veulent lutter contre ceux qu'ils appellent les influx voleurs. Le collectif aide aux victimes d'influenceurs, porte plainte pour escroquerie en bande organisée et abus de confiance contre des influenceurs. C'est une première en France. L'une des plaintes vise notamment la plateforme de titres de propriété numérique Animoon, qui s'inspire de Pokémon. Malgré la participation de 5000 investisseurs à travers le monde et 6 300 000 dollars récoltés, personne n'a reçu les dividendes promis. L'autre plainte concerne le trading à haut risque, l'investissement financier Blatagang, lancé et promu par l'influenceur venu de la télé-réalité Marc Blatta et par sa compagne Nadé.
Est-ce que c'est bien, je veux dire que les influenceurs soient plus encadrés, parce que là ça risque quand même de chauffer un petit peu pour eux, Perico Legas.
Ça commence à devenir épineux. Influenceur, au départ, on se dit qu'il n'y a pas d'incidence autre que de l'influence. Et puis ensuite, ça pèse sur les chiffres d'affaires.
Personne n'est obligé d'acheter. Hein.
Bah ouais.
Bah on sait aujourd'hui l'impact sur certains cortex un petit peu démunis,
les
de lucidité.
Très jeunes.
Voilà. Oui, bah alors n'importe quel acteur qui fait de la pub pour un jambon, par exemple, dans ce cas, c'est un influenceur parce qu'il pousse les gens à acheter. Enfin, toi, comment tu fais ?
Il y a un seuil.
Comment tu fais une pratique illégale ?
S'il est avéré que cette promotion est mensongère, qu'elle induit en erreur et qu'elle peut faire consommer des produits qui sont nocifs ou qui mentent, là, effectivement, je pense que les acteurs doivent se préserver avant, se rassurer. Moi, j'en ai connu des dizaines. Oui. Ils se renseignaient à mort. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que vous me faites dire?
Non.
Mais là, aujourd'hui, comme on vérifie rien et que ça passe comme ça fait partie de l'air du temps.
Excusez-moi, je pense que vos enfants n'iraient pas investir financièrement parce qu'il a vu deux influenceurs à Dubaï. Hein.
Les miens, non.
Franchement, non, mais enfin, vous avez vu les vidéos?
Sûr, les miens, non. Mais d'aucuns, oui. D'aucuns, oui. Ben oui, on en est là. Ce que je disais, l'école ne protège plus. L'école ne forme plus le cortex.
Si, parce que les parents, c'est
comme les abrutis qui promettaient des rendements mirifiques avec la fameuse pyramide de Ponzi où c'est joué sur la connerie des gens et c'est inépuisable,
qu'avant l'instruction.
Je pense que l'État doit intervenir pour légiférer et encadrer. Non, mais bien sûr,
promettre un placement avec un haut rendement sans avoir de notice de la bourse ou de la Banque de France.
Non, mais ça, je suis d'accord.
C'est une escroquerie.
Mais il y a des choses qui peuvent être encadrées. Par exemple, des pratiques comme le dropshipping.
Expliquez ce que c'est.
Alors, le dropshipping, c'est en fait faire l'intermédiaire. Donc, vendre quelque chose qu'on ne produit pas soi-même, mais comme c'est nous qui l'avons vendu, on l'achète 1 euro et nous on le revend 50.
Oui.
Ça c'est hyper problématique et ça peut complètement être encadré. Je pense que le monde de l'influence est la prochaine mine d'or en termes de qui politique, philosophique, etc. Et qu'il faut absolument que l'État mette son nez là-dedans parce que sinon, c'est un peu le début de la fin.
Il n'y aurait pas de dégâts s'il n'y avait pas la tablette. Fait qu'il y ait la tablette.
D'accord, à part interdire les tablettes.
D'accord, c'est quand même l'outil au départ qui est le vecteur de cette aberration.
En tout cas, moi je suis influencé chaque après-midi par Vincent Moscato.
Oh,
le super Moscato Show.
Vincent, il nous fait du bien. Il nous éduque, il nous fait grandir.
Je suis un influenceur dans le sport français.
Mais bien sûr.
J'ai influencé autrefois dans le Cantal il y a quelques années.
Pas assez, Vincent.
Alors, le shipping, dropping, oh, ça c'est énorme. C'est quoi? C'est des shippies qui tapent des drops l'après-midi pour s'amuser, c'est ça, non?
Je ne sais pas.
Alors, attention, on va parler du Stade Toulousain qui font un peu leur pleureuse. Ils sont qualifiés en Coupe d'Europe, mais ils disent mais ça va être dur, ça va déséquilibrer le top 14, le championnat, parce qu'on est sur deux tableaux. C'est le principe même, monsieur, des grosses écuries qui jouent les deux tableaux. C'est le principe
ça,
même.
Ça, en foot, on dit jamais ça, nous,
voyez. Ah oui, ça, c'est sûr, on dit entre
choses. Chose.
Mais justement, on va parler Klopp, est-ce que le tabac est un peu mouillé avec Liverpool? L'entraîneur Klopp, il n'y a plus de braise, il n'y a plus rien. À la trapinette, est-ce qu'il faut qu'il dégage? Et puis Giroud qui est au service de la République, il a dit écoutez, si l'équipe de France m'appelle, je suis là.
Ah, mais il est toujours là, lui.
Oui, les grognards, la garde meurt, mais ne se rend pas. Giroud, il sera dans le dernier carré, monsieur.
Il a été très bon.
Il a été très bon, il a un beau sourire, il a une belle gueule. Je boycotte qui?
Ok, bon, et ben Vincent Moscato, le super Moscato Show, c'est tout de suite. Et nous, on se retrouve demain dans Estelle Midi, midi 15h. Sur RMC Story.
T'es mon influenceur préféré.